20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. À l'heure où la France renouvelle les préparatifs du banquet antique, du festin gaulois, réjouissance tant religieuse que profane, le magazine de l'archéologie de France Culture n'avait ce soir qu'un but, finir lui aussi l'année en beauté. Pour approcher et décrypter ce que cette discipline recouvre de concepts, de modèles, à l'heure du réchauffement climatique de nos sociétés mondialisées, il ne peut qu'être bon de revenir sur 5 millénaires d'une histoire, une histoire avant l'histoire, durant laquelle l'homme commença à imposer sa marque sur notre planète. Pour en parler, Jean Guilaine, bonsoir.
Bonsoir.
Archéologue, membre de l'Institut, professeur au Collège de France, vous venez ce soir évoquer vos recherches au travers d'un nouvel ouvrage, Les chemins de la proto-histoire, fraîchement paru aux éditions Odile Jacob. Jean Guilaine, cette histoire avant l'histoire, est-ce ce que vous dénommez la proto-histoire ?
Oui, en fait, la proto-histoire. Vous savez, le terme proto-histoire a plusieurs sens. Il peut avoir un sens très restrictif, celui de populations qui n'ont pas l'écriture, mais sur lesquelles d'autres populations ont écrit, j'oserais plutôt dire, ont laissé quelques traces écrites, souvent floues et pas toujours facilement compréhensibles, interprétables plus exactement. Bon, ça, c'est l'explication en quelque sorte ramassée, en gros 500 ans dans nos régions.
Bon. Les Gaulois.
Les Gaulois. Ensuite, vous pouvez avoir une exception plus large, celle des âges des métaux, c'est-à-dire l'âge du bronze et l'âge du fer. Alors en gros, on étire l'accordéon, si vous me permettez l'image, pendant 2 millénaires. Et puis, une exception plus large, qui est la mienne, c'est qu'à partir du moment où l'homme se sédentarise, où il devient un producteur, il devient un paysan, un villageois, on entre dans l'histoire rurale. Cette histoire rurale qui nous tire vers l'histoire. Et donc, je donne au terme proto-histoire un sens très, très large, très élargi, et je lui fais couvrir, en gros, pour l'Occident, 6 millénaires.
C'est la différence, donc, d'un côté, vous avez les sociétés de prédation et d'un seul coup, les sociétés de production ?
Oh, d'un seul coup. Pas d'un seul coup. En fait, vous savez, ce que nous appelons révolution néolithique, c'est un concept d'historien, c'est-à-dire qu'a posteriori, avec le recul, nous nous rendons compte que l'agriculture a été un des grands tournants de l'humanité, et donc on appelait ça la révolution néolithique. En fait, ça n'est qu'une évolution, ou une révolution lente, très lente, puisque au Proche-Orient, qui est l'un des foyers du néolithique, le point de départ, en gros, c'est la sédentarisation des épipaléolithiques, des natoufiens, autour de 12 000, et puis une économie pleinement agricole et pastorale, en gros c'est 7 000. Donc vous voyez, entre la sédentarisation et puis les sociétés pleinement agricoles, il y a 5 millénaires, donc c'est vraiment sur le temps long que tout se joue. Alors le néolithique n'arrive pas là, clé en main en quelque sorte d'un seul coup, mais il a fallu beaucoup de temps pour qu'il se constitue. Alors bien évidemment, dans les régions où il diffuse, alors là il diffuse clé en main, c'est-à-dire qu'en Europe par exemple, il arrive tout constitué. Autrement dit, ceux qui l'ont porté, ceux qui l'ont diffusé, eux, étaient déjà des agriculteurs accomplis.
Jean Guilaine, en jouant sur les mots, ne peut-on pas dire que cette proto-histoire est tout simplement une accélération de l'histoire ?
Tout bonnement. C'est une accélération de l'histoire qui, tout d'un coup, l'homme se met à expérimenter, d'abord à travers la sédentarisation, un autre style de vie, c'est-à-dire plutôt que de pratiquer du nomadisme important ou réduit, peu importe, en quelque sorte, il se sédentarise en des points où il peut trouver tout au long de l'année de quoi se nourrir. Donc, il met à l'épreuve, en quelque sorte, une autre façon de vivre. Il se fixe, donc il est là, il expérimente, au fond, il expérimente. Et puis les graminées, il en consommait depuis fort longtemps. Mais progressivement, il observe, n'est-ce pas ? Il observe les céréales, il se met à les cultiver. Donc tout cela joue sur le temps long Et donc, en quelque sorte, les choses se compliquent au fur et à mesure. Autrement dit, il y a une évolution qui fait que ce chasseur devenu sédentaire, petit à petit, va se transformer et va devenir un agriculteur.
C'est une période de très grande innovation.
C'est une période de très grande innovation, non seulement du point de vue, en quelque sorte, de la sédentarisation, de la création des fermes, des villages, du changement total, n'est-ce pas, qu'il va avoir dans l'acquisition de sa nourriture, puisque son alimentation carnée, il va la tirer des animaux qu'il élève. Son alimentation végétale, il va essentiellement la tirer des céréales et des légumineuses qu'il va cultiver. Et puis, une innovation psychique aussi, d'une certaine façon, parce que lorsqu'on vit à demeure, dans une maison, avec sa famille, il se crée à l'intérieur de cette maison des habitudes. Des habitudes de soumission, de respect, de contestation aussi. Donc, tout cela est une sorte de magma social qui se constitue. Et on peut dire que, au fond, la maison, c'est le premier lieu où s'opère ce changement. C'est pour cela que la sédentarisation, c'est évidemment très important. Et c'est d'ailleurs au point de départ du processus.
Ainsi, pour vous, cette période décisive dans la construction de nos sociétés ne peut être approchée que dans la longue durée ?
À mon sens, oui, dans la longue durée. D'abord, les datations radiocarbone nous montrent bien qu'effectivement, ces choses ne se sont pas produites du jour au lendemain, mais que c'est finalement un très long processus. Et que très probablement, les populations qui les mettaient en œuvre ne savaient pas qu'à terme, ça devrait déboucher sur quelque chose qui allait transformer la face du monde, en définitive.
Aujourd'hui, la proto-histoire porte sur des problématiques en lien direct avec nos propres interrogations sociétales. L'homme et les premières dégradations de l'environnement, l'homme face aux fluctuations climatiques.
Oui, les préhistoriques, les néolithiques n'étaient pas des écologistes. Ils ont brûlé les forêts, ils ont brûlé les savanes. Il fallait qu'ils aient des terres, n'est-ce pas, pour cultiver. Il fallait qu'ils aient des prairies, des terrains de parcours pour leurs animaux. Donc, ils ne se sont pas trop posés de questions. Ils ont été au départ d'un engrenage qui, porté au point ultime qui est celui de nos sociétés d'aujourd'hui, ont contribué petit à petit à modifier non seulement leur milieu, mais finalement à la servir totalement. On peut dire que le néolithique, c'est le début du moment où l'homme commence à maîtriser la nature. Et d'ailleurs, il en a eu conscience, probablement, parce que ce qui est amusant aussi, c'est de constater, en archéologue, qu'à partir du moment où l'homme a l'impression de devenir le maître de la nature, ça marche avec l'anthropomorphisme. Autrement dit, il commence à se représenter. Au fond, il y a déjà eu évidemment les statuettes gravettiennes, bien entendu. Mais à ce moment-là, au Proche-Orient, on voit l'homme qui se représente, et qui se représente sous forme souvent de statues.
Ain Ghazal, par exemple, en Jordanie.
Ain Ghazal, avec ces espèces de mannequins, en quelque sorte, fabriqués sur une ossature de roseau. Mais vous avez également en Turquie, sur les sites turcs, n'est-ce pas, Çayonu, ou des Göbekli, d'une certaine façon, des représentations humaines. Il y a à Urfa une statue que l'on peut attribuer au début du néolithique, qui représente un personnage qui a près de 3 mètres de haut, n'est-ce pas? C'est un personnage masculin qui tient son sexe dans sa main. Donc, on a l'impression que là, l'homme, ayant pris conscience qu'il est devenu le maître de la nature, se représentait plus grand que nature. Je parle au niveau de la taille moyenne des humains, bien entendu. Donc, vous voyez comment, en même temps, il y a progressivement une prise de conscience qui marche avec cette marche en avant que constitue le néolithique.
On pourrait penser que l'Anthropocène serait apparu avec le néolithique ?
Oui, en fait, moi je suis assez favorable à cette conception, puisque c'est à partir de ce moment-là que l'homme non seulement transforme la nature, mais la servit, la nature, c'est-à-dire la met à sa botte. Et donc, évidemment, l'Anthropocène, aujourd'hui, il a pris des proportions qui vont de pair avec les moyens techniques qui sont les nôtres. Mais déjà, on peut considérer que, au fond, le néolithique, c'est la proto-histoire de l'Anthropocène.
Qu'en est-il de l'homme face aux fluctuations climatiques ? On sait que les néolithiques, par exemple, ont vécu la réédification de 6002 avant notre ère.
Oui, vous savez qu'en 6002 se produit un événement un peu perturbant au niveau climatique. Et cet événement, les archéologues l'interprètent de deux façons. Pour certains, cet événement joue essentiellement sur le Proche-Orient et il oblige les gens à bouger. C'est-à-dire que les gens, avec un peu plus d'aridité, sont obligés de rechercher des terres plus favorables, en quelque sorte, à la production agricole. Et donc, ils se mettent en marche, si je puis dire. Ils passent en Anatolie, etc. Mais, et puis en Grèce, etc. Mais nous nous rendons compte, en fait, avec les datations dont nous disposons maintenant, qu'en fait, l'exode néolithique a commencé avant cette perturbation, et que l'homme était déjà passé en Europe vers 6002, n'est-ce pas, était passé dans le sud-est de l'Europe, s'était installé. Alors là, il a pu y avoir évidemment un arrêt, une pause, bien entendu. Et nous savons aussi que ces populations ont déstabilisé, ces modifications climatiques ont perturbé les populations de chasseurs-cueilleurs qui vivaient en Méditerranée centrale et en Méditerranée occidentale, puisque souvent, nous avons un hiatus qui sépare les derniers chasseurs-cueilleurs des premiers paysans. Et souvent, ce hiatus se situe au cœur de ces dernières civilisations de chasseurs-cueilleurs. Donc, cela prouve qu'il y a eu une déstabilisation à ce moment-là de ces chasseurs-cueilleurs. Alors, bien entendu, ils n'ont pas disparu. Mais, certainement, ils sont revenus peut-être à davantage de mobilité. Enfin, disons que nous, archéologues, nous avons plus de mal à les saisir, à les retrouver.
Qu'ils ont été résilients, par exemple ?
Ils ont été résilients dans la mesure où ils n'ont pas disparu. C'est-à-dire qu'ils ont invité, ça c'est toujours la puissance d'adaptation des sociétés humaines, qu'il s'agisse des chasseurs-cueilleurs comme des agriculteurs. Ils n'ont pas disparu, mais ils ont modifié probablement leur façon de vivre. Peut-être qu'il y a eu davantage de scissions entre, on ne sait pas trop en réalité. Nous nous heurtons parfois à des hiatus. Et le hiatus, c'est toujours quelque chose de difficile à expliquer en archéologie.
Cette proto-histoire n'est-elle pas aussi devenue un enjeu pour les archéologues qui se doivent de la faire reconnaître? Deux livres sont parus en 2 mois, le vôtre et celui de Jean-Paul de Moule.
Oui, celui de Jean-Paul de Moule. Et nous traitons à peu près des mêmes problèmes, mais peut-être avec une optique un peu différente, puisque, si je puis dire, moi j'ai fait beaucoup de terrain dans ma vie. Et donc, je m'attache beaucoup aux faits. Je ne dis pas que mon ami Jean-Paul de Moule ne s'attache pas aux faits, bien entendu. Mais j'ai tendance, pour ce qui me concerne, à procéder très souvent à partir d'observations directes ou indirectes, mais dans lesquelles j'ai été pour partie acteur.
Certes, l'homme dégrade la nature, mais le néolithique est un acte fondateur de la fabrication du paysage, perçu comme une construction sociale ?
Tout à fait. Le paysage, finalement, à partir du néolithique, c'est l'homme qui dompte l'environnement, qui le maîtrise et qui le fabrique à sa guise. En fait, s'il veut avoir des champs à proximité, il brûle la forêt, et brûlant la forêt, il construit le paysage tel qu'il l'entend. On peut dire que le néolithique, non seulement a contribué à la modification totale du paysage, mais qu'il l'a humanisé, il l'a socialisé. Donc pour moi, le paysage, à partir du néolithique, est une construction sociale, c'est une construction tout bonnement humaine.
On le voit, ce paysage transformé ?
Alors, on le voit. On le voit à travers des disciplines. Bon, on le voit des disciplines comme l'anthracologie, l'étude des charbons de bois qui nous donne une idée quels bois ont été brûlés, pourquoi, pour la construction, pour le feu, etc. On le voit à travers l'évolution de la palynologie, par exemple, qui sont des disciplines, les pollens, qui nous donnent une idée de l'évolution du paysage global. Mais je dirais que le néolithique, l'ambition du néolithicien, c'est plus que cela. Ça serait de pouvoir retrouver les champs fossiles. Parce que nous dire, par exemple, qu'il y avait moins d'arbres, plus d'herbes, etc., davantage de terrain découvert. Ça nous donne une image. Mais si on peut aller encore plus loin, et en particulier retrouver des champs fossiles tels que cela a été fait pendant longtemps en Europe du Nord-Ouest, on est là sur une piste encore plus intéressante, je dirais, dans notre connaissance, notre maîtrise, à nous, archéologues, du paysage passé.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Justement, Jean Guilaine, la découverte de champs fossiles dans les années 1970-1980 avait été une vraie révélation pour les archéologues. On y voyait par exemple des traces de labours croisés.
Oui. Alors il y a des expériences très intéressantes qui ont été faites notamment en Italie là-dessus. Et vous avez des fouilles extensives qui ont été faites dans le secteur de Naples, n'est-ce pas ?
Et près du Vésuve,
sous les cendres du Vésuve, c'est-à-dire sous les éruptions du Vésuve, on a retrouvé, évidemment, totalement fossilisé, des chants qui remontent à la fin du troisième millénaire, au bronze ancien en particulier, et on retrouve des labours croisés, c'est-à-dire que ces chants déjà ont été charrués, si vous me permettez le terme, c'est-à-dire labourés à l'arrière, cet ancêtre de la charrue. Et on retrouve là évidemment non seulement des fossés bordiers, mais aussi des chemins avec les ornières des charrettes qui y sont passées. Donc voyez, on est allé au-delà de la vision de ce que peuvent nous apporter l'anthracologie et la palynologie, et on a vraiment tout un paysage fossile restitué qui apparaît sous nos yeux.
Les arrères, on en verra pour des périodes un petit peu plus tardives, notamment dans l'art rupestre.
On en verra eux, même peut-être dans des périodes plus anciennes, on en verra dès le troisième millénaire représentés. Vous savez, les plus anciens arrères connus sont des arrères qui remontent à la seconde moitié du quatrième millénaire. Donc on sait qu'à partir de ce moment-là, on peut labourer les champs, souvent donc avec des labours croisés. Et on a donc comme ça, non seulement, je citais le cas de l'Italie, mais en Europe du Nord-Ouest, également dans les Alpes, on a des traces d'arrères. Et souvent, ces labours, pour des raisons X, ont été fossilisés. Et donc les archéologues les retrouvent tels quels. C'est quand même absolument passionnant. Voyez, moi, je vous dis ça parce que j'ai commencé à faire de l'archéologie à une époque où ces choses-là nous paraissaient absolument inaccessibles. On avait bien la littérature de l'Europe du Nord-Ouest, mais ces champs, on ne les datait pas très bien, les Celtic Fields par exemple, etc. Maintenant, nous avons des datations, nous les retrouvons, nous avons des datations, et donc nous voyons qu'à partir du moment où l'arrère est là, on retrouve ces champs fossiles. Alors, il y a une question qui reste posée. Et avant l'arrère ?
Le bâton à fouiller.
Alors, le bâton à fouiller, là où ? Ce qu'on appelle, nous, la bêche, d'une certaine façon. Cette façon de travailler le sol, de le biner, etc. Donc là, on a des choses qui restent encore à révéler. Comment étaient les champs à cette époque-là, l'époque du néolithique ancien, moyen? Alors, on a dit que ça pouvait être déjà des sortes de jardinets, de champs qui étaient entourés par des haies, parce qu'il y a des pollens qui ont pu donner ce sentiment. Mais là, si vous me permettez le terme, ça reste encore largement à défricher.
Avec le néolithique, nous voici devant la naissance de l'histoire rurale. Justement, sur ce thème, vous avez beaucoup œuvré dans les années 90 à promouvoir une archéologie agraire.
J'ai essayé tout au moins. C'est-à-dire que pendant très longtemps, à partir du moment où j'ai beaucoup fait de terrain, j'ai, à l'image des paléolithiciens, il faut leur rendre justice, j'ai associé les disciplines de l'environnement à mes travaux. Et pourquoi ? Parce qu'il me semblait que le binôme habitat, sépulture me semblait insuffisant pour ces civilisations agricoles.
Et typologie lithique, des silex.
Et typologie lithique, typologie céramique, etc. Ça me semblait insuffisant parce qu'en fait, il y a trois images là-dedans. Vous avez l'habitat, vous avez le cimetière, la tombe, mais vous avez surtout l'espace exploité. Et cet espace, personne ne s'y intéressait. Donc, il a fallu faire entrer les sciences de l'environnement pour essayer de connaître comment cet espace exploité. Ça n'est pas le même espace que celui des paléolithiciens. Le même espace exploité l'avait été, n'est-ce pas, avait été modifié par l'homme, et puis essayer de voir comment on pouvait le reconstituer avec les sciences de l'environnement. Donc nous avons publié cet ouvrage, n'est-ce pas, pour une archéologie agraire, et cet ouvrage, en fait, posait un certain nombre de questions. C'était notamment la question, vous l'avez évoqué tout à l'heure, des champs fossiles. Ça nous paraissait un peu inaccessible, parce que, en fait, en France, nous n'avions pas l'archéologie préventive. Et alors, 10 ans après, l'archéologie préventive s'est développée. Alors là, on a pu décaper de très grands espaces et on a pu avoir une autre vision, en quelque sorte, de ce qui jusque-là nous échappait. Alors, je pense aux recherches de Philippe Boissineau, n'est-ce pas, en Provence. Je pense aux recherches de Cyril Marsigny et Emmanuel Guesquière pour des périodes plus anciennes, puisqu'ils ont retrouvé des parcellaires du bronze ancien en Normandie. Donc tout cela, on a pu le faire, en particulier grâce aux fouilles préventives, et il faut le dire, grâce à cette institution qu'est l'INRAP.
Vos premières fouilles, Jean Guilaine, dans les années 1963, portaient justement sur un abri de berger, l'abri Jean Croc.
L'abri Jean Croc, c'était dans les Corbières, c'était une de mes premières fouilles. Et là, je vais peut-être vous amuser. J'avais participé, cette même année 1963, aux fouilles que Max Escalon de Fonton, qui était à l'époque mon directeur de recherche au CNRS, les fouilles qu'il conduisait dans l'abri de Monclus, dans le Gard, qui était un site occupé à la fois au Mésolithique et au début du Néolithique. Et je m'étais rendu compte, avec l'exemple de Monclus, qu'en fait, non pas des abris, mais de simples parois rocheuses, pratiquement, pouvaient avoir été aménagées et être transformées en abris par des préhistoriques. Et revenu dans mes corbières, je me suis mis à chercher des pieds de paroi. Et l'abri Jean Cros, en fait, c'est presque un simple pied de paroi. J'ai fait des sondages et j'ai trouvé un site du néolithique ancien. Alors, j'ai travaillé sur ce gisement pendant quelques années, 5e millénaire, autour de 5000 avant notre ère. Et je me suis rendu compte qu'on avait affaire probablement à un abri de berger qui passait là de manière épisodique, qui pouvait chasser le sanglier, évidemment, qui était la proie locale, mais qui avait avec eux, ces gens-là, avaient eux des moutons qui, qu'à la bonne saison, ils poussaient vers les terres un peu plus fraîches des corbières.
Alliance, solidarité et coopération ont été les maîtres mots pour évoquer ces sociétés. Pourtant, nous savons désormais que celles-ci ne semblent en rien pacifiques.
Alors oui, ça a été une découverte des années 80, en gros. C'est-à-dire que pendant longtemps, on pensait que ces sociétés étaient des sociétés solidaire, fraternel, n'est-ce pas ?
Égalitaire.
Alors, égalitaire, il fallait unir les forces pour brûler la forêt. Il fallait unir les forces pour se méfier encore de certaines bêtes sauvages. Et puis, on s'est rendu compte que ces sociétés agricoles, en fait, pouvaient connaître des massacres. Et en particulier, le site de Thalheim, en Allemagne, a fait la démonstration qu'on se trouvait devant une fosse commune où les bons hommes avaient été tués. Et alors, curieusement, ils ont été tués, on voit les crânes fracassés, à l'âche polie, à l'âche de pierre. Donc, ça n'était pas des chasseurs-cueilleurs qui se battaient contre des agriculteurs. C'était des agriculteurs qui se battaient entre eux, très probablement. Et donc, ça pose le problème de quel est, en quelque sorte, le lien que l'on peut faire en archéologie entre ce que nous appelons une culture matérielle, c'est-à-dire une culture que l'on définit avec les mêmes céramiques, les mêmes types d'objets en silex, etc., et le psychisme, ce qui se passe à l'intérieur de cette communauté. Est-ce que, parce que les gens utilisaient les mêmes types de documents matériels, qu'ils partageaient les mêmes passions, les mêmes envies et surtout les mêmes liens affectifs, à l'intérieur d'une même culture, et pour ce qui est de la culture à céramique rubanée que nous évoquons à propos de ces sites autour de 5000 avant notre ère, peut-être ces sites étaient-ils constitués de familles, de migrants, qui venaient d'endroits différents et qui peut-être ne s'aimaient pas beaucoup. Il a pu y avoir des crises personnelles, en quelque sorte, des crises entre familles, à l'intérieur d'une même culture, c'est-à-dire de gens qui utilisaient les mêmes productions matérielles. Et ça, c'est évidemment quelque chose dont on ne se doutait pas trop jusqu'à présent.
Récemment, le site d'Arenheim, en Alsace, a d'ailleurs très bien illustré cette violence avec la découverte de bras gauches qui ont été coupés, voire arrachés. Qu'en est-il de la genèse du guerrier ? Est-elle prégnante dans l'idéologie des néolithiques ?
Au début du néolithique, ce que nous voyons chez certains individus masculins, ce sont des trophées, ce sont des parures, par exemple, qui sont faites à partir de craches de cerf, à partir de défenses de sangliers. Donc on peut se dire que le personnage qui a été inhumé tirait peut-être son aura de la chasse. Mais petit à petit, les choses vont basculer et l'effigie, en quelque sorte, la représentation iconographique des gens de cette époque-là, ça va être des armes, et plutôt des armes qui sont liées à la guerre, au combat rapproché, au combat à distance aussi, puisque les premières représentations iconographiques au fond que nous avons des gens du néolithique, ce sont les statues menhirs. Et sur les statues menhirs, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des personnages féminins qui sont représentés, qui ne sont pas armés, et on voit des personnages masculins qui sont armés. Ils sont armés de quoi ? Ils sont armés du poignard, de l'arc et de la flèche, et de la hache ou de la massue. Voyez, donc, il y a déjà une représentation du guerrier qui intervient bien avant que le guerrier à temps plein ne se manifeste. Il ne se manifestera que beaucoup plus tard. Donc, on a là une sorte de proto-guerrier. Vous voyez, j'aime beaucoup le préfixe proto. Une sorte de proto-guerrier d'Occident qui est matérialisé dans la pierre, dans une forme de statue, mais qui n'obtiendra son statut social à plein temps que bien des siècles après.
Cela débouchera sur la naissance du guerrier, le combattant à temps plein, le rôle central de l'individu.
Oui, parce que nous avons des représentations des confrontations des guerres néolithiques. Nous les avons à travers l'art du Levant espagnol, où nous voyons des populations, deux groupes d'archers se tirer dessus. Mais cette guerre, ces guerres néolithiques, ce sont des guerres d'archers. C'est-à-dire les gens se tirent dessus, mais à distance. Au fond, le guerrier est un embusqué quelque part. Il ne se découvre pas tellement. Au contraire, à partir de l'âge du bronze, à partir du moment où il y a l'invention de l'épée et de la pique, le guerrier se bat face à face avec un autre individu. Au fond, le guerrier, qui n'est pas identifié au néolithique, devient identifié à partir, en gros, de 1500 avant notre ère. Donc, à partir de ce moment-là, le combattant, sa fougue, son adresse, son courage vont être davantage valorisés d'une certaine façon. Et c'est dans la foulée de cette époque-là qu'on va trouver progressivement les véritables guerriers à plein temps. En Occident, je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'apparaît le guerrier à plein temps. On a parlé d'aristocratie guerrière dès le bronze ancien pour désigner ces gens qui sont enterrés dans les grands tumulus du Wessex ou de Bretagne ou de Saxe, etc.
Vers 1800 avant notre ère à peu près.
Oui, autour de 1800 avant notre ère. Bon, mais les tombes de guerriers, c'est-à-dire des personnages qui se font enterrer avec leurs armes offensive ou défensive, on ne le trouve pas avant l'âge du bronze final, avant 1200, 1000 avant notre ère. Et des guerriers à plein temps, alors, peut-être apparaissent-ils à ce moment-là, peut-être même sont-ils un peu plus récents, apparaissent-ils au cours du premier âge du fer.
Je rappelle pour les auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture que nous évoquons la proto-histoire avec Jean Guilaine, professeur au Collège de France. Il nous faut alors évoquer un monument mégalithique espagnol absolument exceptionnel. Valanchina de la Concepción, nous sommes près de Séville,
oui.
Un mobilier d'une richesse
hors
norme. Oui.
Alors en fait, non, Valentina Concepción n'est pas un monument, mais un lieu où l'on trouve toute une série de monuments mégalithiques. Alors Valentina Concepción, c'est un site qui, à partir de 3000 avant notre ère, est pratiquement unique en Europe de l'Ouest. C'est un site qui s'étend sur à peu près 400 hectares. Et il englobe dans sa partie ceinturée, il englobe toute une série de sépultures. Alors, des monuments qui ont été découverts et fouillés un peu hâtivement au XIXe siècle, la Cueva de la Pastora, ce sont des mégalithes, ce sont des monuments mégalithiques avec un très long couloir qui se termine par une chambre circulaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle là-bas les tolos, n'est-ce pas ? Ou le dolmen de Matarrubia, qui est aussi une tolos. En espagnol, on dit un tolos. En français, on dit une tolos. Et il y a eu récemment de nouvelles fouilles dans ce périmètre-là, dans le périmètre de Valentina de la Concepción, et on a fouillé deux tombes, deux nouvelles tolos. La tolos 10042-10049, excusez-moi, et puis une tolos qu'on appelle la tolos de Montelirio. On a trouvé là-dedans des mobiliers absolument extraordinaires.
Un poignard absolument invraisemblable.
On a trouvé un poignard, taillé sur du cristal de roche. On a trouvé beaucoup d'objets d'ivoire. Et on a analysé ces objets d'ivoire. Et vous savez d'où viennent ces objets d'ivoire ? C'est de l'ivoire d'éléphant d'Asie.
Ce n'est pas d'hippopotame.
Et pas d'hippopotame, parce que... Alors, on se demande par où sont passées les routes qui ont amené en Espagne, dans la région de Séville, ces vestiges. Et ces matériaux ou ces objets. Parce qu'on a retrouvé également, à Valentina de la Concepción, un atelier de fabrication, de travail de l'ivoire. Je pense, pour ma part, qu'ils sont passés par l'Afrique du Nord. Parce que s'ils étaient passés par les grandes îles de la Méditerranée, c'est-à-dire par Chypre et par la Crète, on en retrouverait. Or, en Chypre et en Crète, on ne retrouve que des objets en ivoire d'hippopotame et pas en ivoire d'éléphant. Donc, la route est certainement la route de l'Afrique du Nord, à partir du Levant ou à partir de l'ancien empire égyptien, c'est-à-dire de la zone du Delta.
Jean-Guilaine, juste pour conclure rapidement, inégalité, enquête sur un fléau mondial, titrait voici peu un grand journal du soir. Les vrais coupables, Jean-Guilaine, ce sont les gens que vous étudiez, ceux par exemple de l'âge du cuivre ?
Oui, je pense en fait que les inégalités existent depuis toujours et que déjà, même chez les chasseurs-cueilleurs, il y avait des personnages qui étaient en quelque sorte, qui bénéficiaient d'une aura plus grande que d'autres. Mais je pense que à cette fin du néolithique, petit à petit, les inégalités s'accentuent de plus en plus et cela ira croissant tout au long de l'âge du bronze.
Jean-Guilaine, merci. Je rappelle le titre de votre livre, Les chemins de la proto-histoire, paru chez Odile Jacob. Club. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Bernard Laniel, et avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechat. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, et pour commencer l'année, Marcelotte nous donnera son point de vue sur la préhistoire ancienne. Marcelotte, ou ma préhistoire à moi.